Moi, c'est André de Mbujima, au Kata Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation, l'Agriculture et FAO en sigle, la RDC dispose de 80 millions d'hectares de terres arables et 4 millions de terres irrigables. Mais un constat amer, malgré toutes ses potentialités, la RDC a toujours du mal à développer son secteur agricole. Au fil des années, des programmes et des investissements ont été mis en œuvre par différents gouvernements pour booster ces secteurs. Mais sans résultat probant, les secteurs agricoles en RDC peine toujours à décoller. Les pays n'arrivent pas à nourrir sa population. Ils sont des millions des Congolais souffrant de la faim, sans compter des millions d'enfants souffrant de la malnutrition. Pour certains experts, l'agriculture en RDC souffre d'un déficit de structuration des filières agricoles, mais aussi de manque de développement de l'écosystème agro-industriel. D'autres, en revanche, estiment qu'il y a plutôt déficit d'une vraie politique agricole et que le budget alloué au secteur agricole ne traduit pas une réelle volonté de booster ces secteurs. Et les différents slogans tels que l'agriculture priorité de priorité ou encore la revente du sol sur les sous-sols demeurent des slogans creux. Quelles sont, selon vous, les réformes à mettre en place pour booster l'agriculture en RDC? Vos actions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les 085 44 65 536. Patrick Kassongwa est à la mise en nom de ce magazine. Elise Kavira sur la réalisation et la coordination. Paul Badianama est bien là pour l'équipe multimédia. Au micro, c'est Marcel Ngombala. Tout à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Voilà, merci d'avoir été nombreux à réagir sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Nous aurons l'occasion de lire certaines de vos réactions au cours de ce magazine également. Comme toujours, le standard sera ouvert pour permettre à ceux qui veulent intervenir en direct de faire part de leurs préoccupations. Mais pour l'instant, nous allons nous tourner vers notre invité qui est déjà en ligne, le professeur Jean-Robin Danza Bombiti. Professeur, bonjour.
Bonjour monsieur l'animateur et bonjour à tous nos auditeurs.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes expert en agriculture intelligente et durabilité. Avec vous, on va échanger sur cette question cruciale de l'agriculture en RDC. Et comme vous le savez, que ce soit les experts que vous êtes, que ce soit en tout cas des Congolais moyens, tout le monde est unanime. Il se pose un problème sérieux pour le décollage du secteur agricole en RDC. Certains experts estiment qu'il y a un déficit de structuration des filières agricoles, mais aussi de manque de développement de l'écosystème agro-industriel. Mais il y a également ceux qui estiment qu'il y a plutôt déficit d'une vraie politique agricole et que le budget alloué au secteur agricole ne traduit pas une réelle volonté de booster ces secteurs et différents programmes tels que l'agriculture à priorité des priorités ou encore la revente du sol sur les sous-sols demeurent des slogans creux. Alors, cette question, professeur, au regard de toutes ces potentialités dont dispose la RDC, on parle de 80 millions d'hectares de terres arables et 4 millions de terres irrigables et beaucoup d'investissements et des programmes destinés à ces secteurs, en tout cas, ont été initiés avec tous les gouvernements qui sont succédés. Mais ces secteurs peinent toujours à décoller. Professeur, comment expliquez-vous cela?
Effectivement, avec ce grand potentiel, deuxième au monde après le Brésil. En réalité, nous devrions plutôt exporter au lieu d'importer tout ce qui est en train de se faire tout présentement. Alors, le problème se pose à ce niveau. Pourquoi ce paradoxe? Et le grand problème chez nous, c'est que l'agriculture est non structurée, informelle, sans valeur ajoutée, connectée des marchés de financement et de la transformation.
Parce que je ne sais pas, il y a Professeur, essayez de vous déplacer. Professeur, s'il vous plaît, essayez de vous déplacer un petit moment. Il y a de coupures intempestives, on dirait. Ça ne nous permet pas de bien vous suivre très très bien. Essayez de vous déplacer un petit moment. Peut-être que ça pourra s'arranger. Allez-y, vous étiez en train de donner les raisons qui peuvent justifier ces manques de décollage du secteur agricole en RDC.
Merci beaucoup. Que notre agriculture est restée non structurée, informelle, sans valeur ajoutée, déconnectée des marchés et des transformations.
Bon, alors, on va avoir au niveau de la régie, hein, qu'est-ce qu'il faudra faire du moment. On essaie un peu de vous rappeler, hein, au niveau de la régie pour voir qu'est-ce qu'il en est. Okay. Ensuite, on va continuer. En attendant, je vais lire quelques réactions sur la page Facebook par l'auditeur par rapport à ces sujets. Nous avons, par exemple, Dieudonné Chilombo qui nous écrit depuis Kinshasa. Pour qu'il y ait changement, les Congolais doivent savoir que l'agriculture n'est pas un métier réservé aux gens des dernières classes non plus. Aujourd'hui, plusieurs estiment que c'est seulement le secteur minier qui fournit quelque chose. Voilà, ça c'est Dieudonné Chilombo depuis Kinshasa. Et également Arthur Masangila qui nous écrit depuis à Kisangani. La première réforme, c'est la transformation de l'homme congolais. Aussi longtemps que l'agriculture sera considérée comme un métier réservé aux villageois et pauvres, le changement est difficile. Voilà, c'est Arthur depuis Kinshasa. Il y a aussi Tourignati qui nous écrit depuis Sekibanza. Les constats amer et réel, il ne suffit pas d'être expert ou chercheur pour le constater. C'est plutôt le manque de volonté politique qui gangrène tous les gouvernements qui sont succédés. Et je suis désolé des non-dirigeants. Aucun secteur de vie n'a été pris au sérieux depuis 1960. C'est triste. Voilà. Là, c'est Tourignati Peso depuis Sekibanza. Une autre réaction, c'est Une autre réaction, c'est Ribin Malikano depuis il nous écrit depuis l'est de la RDC. Bien sûr, la RDC dispose des terres arabes et riches, mais qui ne profite à rien aux Congolais. Et les Congolais meurent de faim, les enfants et les femmes enceintes de la malnutrition sévère. La problématique qui bloque le pays à décoller dans ces secteurs est due à la non-structuration des secteurs prioritaires comme les secteurs agricoles qui prend le développement du pays, prolifération des groupes armés sur le territoire national. Également, l'État congolais doit prendre des mesures idoines urgentes pour booster ces secteurs agricoles qui peinent à décoller. Voilà, on va retourner à notre invité. On me fait signe qu'il est de nouveau en ligne. Professeur Jean-Robert Ndanza Bombiti, vous êtes de nouveau en ligne.
Je suis en ligne, merci beaucoup.
Allez-y, professeur, on vous écoute.
Ok, alors, tantôt, il y a un paradoxe ici chez nous au Congo parce que les secteurs, en fait, n'est pas structuré. Et que nous avons, parce qu'il faut peut-être essayer de comprendre ce que nous appelons, nous attendons par structuration de la filière agricole.
Oui.
C'est-à-dire, c'est l'organisation des acteurs et des opérations qui contribuent pour une filière donnée. Donc, lorsque nous travaillons en silo, ça veut dire qu'il y a les agriculteurs, les producteurs et même les banques ne sont pas connectées, les transporteurs et tout ça, il n'y a pas moyen d'avancer. Donc, le problème se pose à ce niveau-là. Donc, sans structuration, il est impossible pour nous d'avancer. Alors, j'essaie d'identifier les 5 causes majeures qui freinent un peu le développement de ces secteurs agricoles. Alors, je parlais premièrement de l'absence de structuration de filières. D'après les recherches qui ont été menées, 85% des productions agricoles est consommée en masse. Ça, j'ai suivi un auditeur qui disait tantôt là, voilà, il n'y a pas de transformation de produits agricoles. C'est un problème. Il y a faiblesse des infrastructures. Ça, je crois tout le monde sait. Il y a accès limité aux intrants et financements. Mais il y a aussi un aspect que nous oublions surtout, c'est le déficit en recherche et développement et transfert technique. Parce que l'agriculture congolaise est vivrière et de subsistance. Et pour avancer, il n'y a que des recherches qui peuvent permettre d'avoir des innovations et aussi permettre à ce que nous ayons des augmentations des rendements. Et à la fin, c'est très important, des gouvernances sectorielles en ce qui concerne le secteur agricole. Donc, il y a absence d'un cadre stratégique agricole intégré opérationnel. Donc, avec ça, il est presque impossible pour le Congo et passer à une transition systémique vers un modèle agro-industriel structuré. Voilà, les problèmes se posent à ce niveau-là.
Alors, professeur, prenons le cas, par exemple, du maïs. Lorsque vous parlez des structurations des filières, s'il faut prendre l'exemple concret du maïs, parce qu'on le sait, la RDC importe du maïs, en tout cas de ses pays voisins, et comment on peut, en parlant de structuration de filières, pour ce qui est du maïs, qu'est-ce qui pouvait vraiment être mis en place pour booster la filière maïs?
Voilà. Voilà. C'est une filière maïs. Nous devons comprendre que la structuration s'est organisée et les opérations qui vont de la production jusqu'à la consommation. C'est-à-dire, nous avons besoin des gens qui vont préparer, qui vont avoir des semences, des qualités. Il faudrait par la liste des... Et après, nous avons des producteurs et il y a ceux qui vont s'intéresser à la transformation et il y a ceux qui vont faire le transport et puis, c'est-à-dire, vers les marchés. Les banques qui devront intervenir pour des financements, les techniciens agricoles, les moniteurs. Donc, c'est tout cet ensemble-là et vous comprendrez avec moi que ça manque au Congo. Quand vous avez un agriculteur à Lubumbashi,
professeur, professeur, on revient à vous.
Il doit aller chercher. Généralement, il ne fait pas l'analyse des sols.
Si, professeur, s'il vous plaît, il y a vraiment des soucis avec votre ligne. Hein. On va voir comment tenter encore de vous rappeler. En attendant, on va ouvrir le standard pour avoir les réactions des auditeurs par rapport à ces sujets. Mais je sais que la réalisation est en train vraiment de s'y affairer pour voir comment essayer d'avoir notre invité, le professeur Jean-Robert Ndanza Bombiti, dans des meilleures conditions. J'espère que ça va aller. Mais en attendant, on va ouvrir les standards pour recueillir les avis des auditeurs. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la PSC, votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs, nous parlons aujourd'hui du secteur agricole. Quelles sont, selon vous, les réformes à mettre en place pour booster l'agriculture en RDC? Nous l'avons dit, malgré différents programmes, des investissements, mais ces secteurs tardent toujours à décoller. Si vous voulez intervenir, composez les 085 44 65 536.
Parole aux auditeurs.
Glody Bonganga nous appelle depuis Kinshasa. Glody Bonganga, vous avez la parole.
Bonjour, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup de m'avoir associé dans ce débat. Moi, je pense que pour booster l'espère agricole dans le pays, il y a plusieurs facteurs qui déterminent seulement la production. Je pense que vous allez être ensemble avec moi de comprendre que nous sommes dans un pays où le banque agricole n'existe pas. Pour booster la production agricole, il faudrait peut-être encourager les producteurs, ceux qui font l'activité, qui travaillent dans le secteur agricole, bien sûr, mais aussi les encourager à l'exonération des taxes. Parce qu'aujourd'hui, vous allez être avec moi que quelqu'un qui quitte, par exemple, le Congo central pour venir vendre comme ça, tout au long de la route nationale numéro 1, il y a tant de tracasseries policières qui se passent là. Et parfois, beaucoup de producteurs n'arrivent pas vraiment à atteindre leurs revenus escomptés. Ce sont des problèmes que l'État devait normalement aider la population congolaise. Mais aussi, pour booster la production dans le pays, il y a plusieurs facteurs qui déterminent. Il faut d'abord comprendre quoi produire, pourquoi produire, comment produire. Et lorsque vous répondez à tous ces critères-là, c'est par là qu'on peut atteindre, à booster notre agriculture. Nous sommes dans un pays où, jusqu'à aujourd'hui, moi, je crois, personne ne peut me contredire, nous ne nous exportons pas. Et pendant qu'aujourd'hui, la RDC fait la honte de parmi les pays africains, excusez-moi de le dire, on a dit certaines vérités en face, parce que quand vous allez même dans les différents supermarchés qui existent à Kinshasa, vous allez voir que même des avocats qui quittent nos pays voisins, on vient vendre ça ici. Alors nous, ici au Congo, on fait absolument rien. Parfois, on se demande où est le gouvernement congolais. Mais aussi, ce que vous allez comprendre, c'est qu'il n'y a pas une bonne politique agricole qui existe dans le pays. Lorsque vous arrivez au ministère de l'Agriculture, les fonds à laquelle qu'on donne au ministère de l'Agriculture ne permet pas à ce que le ministère puisse couvrir le besoin avec les agriculteurs. Avec les agriculteurs. Donc, c'est déjà un problème dès le départ. Donc, pour booster, en conclusion, en quelques lignes, ce que je peux dire, il faudrait d'abord qu'on puisse définir notre politique agricole dans les différentes filières. Parce que le secteur agricole a beaucoup de filières. Si je commence à citer, on risque de prendre beaucoup de temps. On doit définir d'abord notre politique agricole en premier. Et la deuxième des choses, on doit cibler des milieux à laquelle on peut faire la production. Souvenez-vous avec les projets de Bukangalonzo. Le projet Bukangalonzo a donné quand même des résultats escomptés, malheureusement. Malheureusement, ce qui est arrivé, mais aussi avec le projet Kanyamaka CCI, avec le service national, nous voyons quand même que la production arrive quand même à atteindre la ville province de Kinshasa. Mais dis-moi, de tels projets, s'il arrivait que nous avons 26 provinces, on puisse épargner ça même dans 10 provinces, 15 provinces. Moi, je pense que les résultats peuvent être significatifs.
Voilà,
donc,
merci.
Une question d'abord, de définir d'abord la politique agricole. Et c'est par là qu'on peut atteindre la production escomptée.
Voilà.
Sinon, on va rester dans des théories, et on ne va rien faire.
Voilà, merci beaucoup.
Donc, c'est ça, beaucoup. Un peu, en quelques mots, ce que je peux vous dire.
Voilà, merci beaucoup, Godi. Banganga, depuis Kinshasa. Pati Maïba, vous êtes à Bandundouville. On vous écoute.
Bonjour, cher Marcel. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Cher Marcel, l'agriculture qui est négligée aujourd'hui dans notre pays, c'est parce que peut-être on ne se rend pas compte de ce que c'est l'agriculture. Vous savez, je vais peut-être vous scandaliser. Je vais demander que vous vous scandalisez. Qui a créé l'homme? Dieu lui a donné la première mission ou le premier travail que Dieu a donné à l'homme, c'était aller cultiver la terre. Donc, Dieu n'a jamais dit à l'homme, allez faire le journalisme. Voyez un peu ça. Dieu connaissait que le besoin primordial de l'homme, de la nourriture, l'homme devait d'abord manger. Vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas mangé, même si vous avez l'argent commun. Et papa Marcel, vous n'avez pas la nourriture, je ne sais pas si vous prendrez les banques, vous commencerez à manger. C'est pratiquement impossible. C'est pourquoi Dieu, voyant ça, il a ordonné à l'homme de cultiver la terre. Et nous, nous sommes les plus heureux. Nous avons un pays où nous avons des vastes espaces où on pouvait cultiver, on pouvait semer. Mais, malheureusement, ce que nous avons comme dirigeants qui pouvaient recadrer ce domaine, pouvaient investir dans ce domaine comme si leur vie est tournée à autre chose. Ils sont là, ils pensent peut-être à autre chose. Voilà, il y a les gens ici de Bukangalonzo, vous vous souvenez avec nous, tous ensemble, où le gouvernement avait pensé, c'était une très bonne idée. Vraiment, les idées dans ce pays ici, il y en a, papa Marcel. Les idées, il y en a. Mais l'exécution alors, on avait les parcs de Bukangalonzo ici, on pouvait tenir les maïs, des choses à manger ici, des types. Mais on voit la suite, on voit tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, quand le chef même a demandé à ceux qui ont géré ce travail-là, comment vous avez fait? Donc, ils sont malades. C'est le sang et de l'eau qu'il n'y a pas. Bon, par conséquent, ils ne savent pas nous répondre. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? On apprend, ils ont déjà semé du chanvre. Là où ils devaient semer le maïs, il y a du chanvre. On ne sait pas si combien ont bénéficié de ce qu'ils avaient fait comme exécution dans ce travail. Voyez un peu ça. Et la question de curiosité qui me vient, cher Marcel, cette étude de plus de 80 000 des arables, c'est une étude réalisée depuis combien d'années? Est-ce qu'en ce jour ici, ces espaces continuent à être là? Si ces espaces sont là, pourquoi nous avons vu notre gouvernement provincial ici a vendu les champs chez les expatriés, là où les autochtones aimaient leur maïs, leurs paroles, les avocats, ainsi de suite, ils ont vendu ces espaces-là au détriment des Blancs. Alors, pourquoi pas aller vendre là où il y a ces espaces vides là, si ces gens-là pouvaient s'aimer, dire, pouvaient s'aimer autre chose? Pourquoi seulement chez nous ici?
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, rapidement, Pati Maïma, rapidement,
merci,
allez-y.
Cher Marcel.
Voilà, merci à vous, Pati Maïma.
Je peux finir pour dire ceci.
Allez-y.
Est-ce possible? Ah, je pouvais demander, l'ancien ministre des Finances, aujourd'hui il est président de l'Assemblée nationale. L'année passée, quand il y avait crise de maïs, il a fait la campagne, il nous a parlé combien ce qu'il devait faire pour qu'il n'y ait pas de pénurie. Jusqu'aujourd'hui, il est dans les affaires. Il est déjà président de l'Assemblée nationale. Peut-il nous dire ce qu'il avait lancé comme projet? C'est déjà à quel niveau?
Voilà, merci, merci, merci Pati Maïma depuis Bandundouville. On revient à notre invité, j'espère que cette fois-ci la communication sera de bonne qualité, parce que en tout cas, lors de sa première intervention, on avait du mal, il avait en tout cas quelques soucis avec sa liaison téléphonique. Professeur Jean-Robert Nzanza Bombiti, vous êtes de nouveau en ligne.
Merci beaucoup, merci pour la patience.
Professeur Jean-Robert, vous êtes bien là?
Ouais. Vous me captez? Ouais, je suis là, je vous capte. Hein.
Bon, allez-y, allez-y.
Vous me captez?
Oui, c'est, je pense que c'est bon, allez-y.
Voilà. Ok, voilà. Je crois, en abordant le sujet, il y a un point capital que tout le monde a fait allusion. Ce sont les politiques africaines. Pourquoi, pour ceux qui le savent, le Congo, depuis l'indépendance, on a eu 5 grandes politiques agricoles. Donc, le problème, c'est pas au niveau des politiques agricoles. Et je crois qu'on est très fort avec cette politique. Même demain, si on réunit un groupe d'experts, on va faire ressortir ces politiques agricoles. Mais, en abordant toutes ces politiques, nous avons remarqué qu'il y a un point qui n'a pas été abordé de manière concrète, territoriale et systématique. Systémique, c'est la structuration des filières agricoles. Je vais vous dire, prenez l'exemple de notre pays ici. C'est rare de trouver dans une seule province, même un territoire, où nous avons des coopératives bien structurées. On est en train de distribuer les semences sans savoir à qui les remettre. Mais si nous structurons la filière, ça veut dire que dans un territoire, nous avons des agriculteurs qui sont connus et un groupe d'agriculteurs, par exemple, c'est ceux qui vont faire les maïs, et les autres, et les manioc et tout ça. Ça, c'est le début de la situation de la filière agricole. Et prochainement, lorsque nous avons besoin d'assistance, nous savons à qui remettre les engrais, les semences, et nous commençons à partir d'une, ce qu'on appelle en anglais, des baseline, un point zéro. Et à partir de ça, qu'on peut dire, voilà, est-ce que nous sommes en train d'avancer ou pas? Et je vais vous informer, ça sera peut-être choquant. 70% des politiques agricoles qui ont été implémentées ici en RDC, plus de 70%, c'était la distribution des semences, des intrants, des capteurs et tout ça. Mais nulle part, vous avez dit un programme où le secteur a été structuré. C'est ce que nous disons. Je suis d'accord avec ceux qui pensent que le problème aujourd'hui, ce n'est pas les politiques. Les politiques agricoles, il y en a. Ce sont des théories. Allons dans la structuration des filières agricoles. Ça, c'est la moindre des choses. Qui est agriculteur?
Professeur, s'il vous plaît, vous étiez justement en train de parler de la structuration des filières à un moment, et puis il y a un souci avec votre liaison téléphonique, et j'avais posé la question de savoir, prenons le cas d'une filière telle que le maïs. S'il faut parler de la structuration, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez bien revenir là-dessus.
Voilà, alors... Compte tenu des temps, je vais aller directement. Prenons la structuration des maïs.
Oui.
Nous avons là, je crois, 6 grands piliers. La première des choses, c'est la production organisée. On en parle toujours.
Oui.
Il faudrait identifier des zones agroécologiques optimales. Parce que le problème, c'est augmenter les rendements. Ce n'est pas partout où on doit cultiver les maïs et quelles semences. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, et là, dans la production organisée, il faudrait utiliser des semences qui sont améliorées. Parce que ce n'est pas bon d'avoir des semences qui vont vous donner 1 hectare, 1,5, alors que vous avez la possibilité d'atteindre 5 hectares, 5 tonnes par hectare. Donc, ça, c'est un grand point. Deuxième maillon de structuration, c'est le renforcement des capacités des producteurs. Il faudrait absolument accompagner les agriculteurs, en commençant par la fertilisation raisonnée. Il y a toujours ce que nous disons ici à Berema pour dire que notre sol est riche et tout ça. Non, c'est pas vrai. Pour savoir qu'un sol est riche, il faudrait procéder par les analyses du sol pour déterminer les éléments nutritifs que la plante pourra absorber. Donc, la partie renforcement des capacités des producteurs est très, très capitale. Et vous avez des gens qui vont venir pour ça. Et troisièmement, il y a l'accès aux intrants et équipements. Je crois que c'est là où nous sommes vraiment meilleur, parce que chaque année, il y a ce point ici. Mais cela ne suffit pas. Et il faudrait penser à la transformation locale du maïs, installation des unités de corticage et tout ça, et aussi la logistique et commercialisation. En fait, d'aménager les routes et ainsi de suite. Mais au-delà de tout ça, c'est la gouvernance de cette filière. Parce que ça doit être interconnecté. Ça ne doit pas être quelque chose en silo, sinon on n'avance pas. Et ceci, pour ceux qui le savent, même ceux qui sont au Katanga, partout, ils peuvent voir ça, comment ça s'est fait, même en Zambie, et tout ça. C'est facile d'aller trouver des semences quelque part, d'avoir des experts pour conseiller, mais l'agriculteur congolais doit faire face à ceci seul. La gouvernance, la logistique, tout ça, et une seule personne. C'est là où le problème se pose.
Voilà. Un autre problème qui fait que il n'y a pas d'écolage du secteur agricole. Il y a des experts qui parlent du développement, du manque de développement de l'écosystème agro-industriel. Est-ce que comment expliquez-vous, comment aidez-nous à mieux comprendre cela?
Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui pensent que le manque de développement de l'écosystème agro-industriel. Parce qu'on a parlé de la cultivation de la filière, mais l'écosystème agro-industriel, c'est simplement l'ensemble organisé et interconnecté. Maintenant, on ajoute les acteurs, les infrastructures, les services qui interagissent autour d'une ou plusieurs filières. Voilà, donc, c'est tout cet ensemble-là. Et l'agriculteur, le fermier, c'est le roi. Donc, tout autour de lui, vous avez les producteurs qui sont organisés en fermiers, coopératives, blocs agricoles. Vous avez les transformateurs qui sont là, qui attendent que les cultures pour transformer. Nous avons les chercheurs, comme nous, dans des centres techniques, et comme vous le savez, moins de 3% du budget a été affecté dans la recherche et tout ça. Donc, c'est un secteur vraiment abandonné qui va directement impacter sur tout l'écosystème agro-industriel. Nous avons les banques et les institutions de microfinance qui doivent venir. Il faut se voir, ces institutions hésitent. Pourquoi? Parce que le système n'est pas structuré. Les transporteurs, les commerçants, tout ça, ils vont venir. Et aujourd'hui, nous avons les start-up agrotech, les services numériques. Et j'ai compté la dernière fois que je travaillais comme directeur général dans une grande compagnie agricole en Afrique du Sud. Nous avions au moins 53 maillons comme ça, connectés simplement pour aider les agriculteurs. Et c'est ce qui nous manque en République démocratique du Congo. Et l'écosystème, c'est juste le prolongement de la structuration de la filière agricole. Donc, lorsqu'on veut aller plus loin, maintenant on pense à un écosystème. Voilà l'écosystème. C'est vraiment l'ensemble de tout ça. Et lorsque ça marche, vous verrez que tout avance sans problème.
Alors, professeur, vous avez suivi, il y a ceux qui ont évoqué, par exemple, le service national, également, ces projets Bukangalonzo, dont beaucoup de gens regrettent, pourquoi ça n'a pas marché. Il y a ceux qui estiment que, aujourd'hui, les services nationaux rendent quand même, en tout cas, fait du bon travail pour ce qui est du secteur agricole. Mais il y a ceux qui estiment que Bukangalonzo également aurait pu être un très, très bon projet pour booster le secteur agricole si cela n'avait pas eu, enfin, n'avait pas capoté. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ok, bon, je crois que pour Bukangalonzo, les avis seront toujours partagés. Et bon, moi, comme scientifique, expert, il y a ce qu'on appelle les ratios en agriculture, pour ceux qui ont fait ça sur les plans commerciaux, c'est que ton coût d'investissement, tu dois tout faire pour le diminuer et augmenter la production. Donc, pour dire qu'un projet réussit, il faut voir combien vous avez investi. Parce que c'est un business. C'est pas la charité. On parle de l'agro-business. Combien a été investi et combien vous gagnez de ça. Donc, je crois que ça sont des calculs que chacun peut faire. Et il faut dépasser cette histoire de sentiments, tout ça. Je crois qu'on devrait vraiment aller travailler, diminuer les coûts. Les coûts doivent être baissés pour permettre à ceux qui est augmentation. C'est comme ça que ça va attirer d'autres agriculteurs dans ce secteur-là. Donc, pour le moment, le coût d'investissement, je crois, est trop élevé. Et je ne crois pas que c'est ça. Et ici, aussi au Congo, nous avons remarqué, nous avons beaucoup d'initiatives comme ça, éparpillées, beaucoup de services comme ça. Mais il faudrait simplement structurer et remettre tout l'écosystème. Il y a ceux qui vont se spécialiser dans les filières d'exportation. Il y a ceux qui se spécialisent dans celles de autosubsistance, vous avez les maïs, les riz qui jouent de deux côtés et ainsi de suite. Et lorsqu'on organise ça, on structure ça très bien, papa Marcel, ça arrive toujours. J'ai l'expérience en Afrique du Sud, en Zambie, Namibie, Ghana, Nigeria, Kenya, ça arrive. Et il n'y a que ça qui ne marche pas encore au Congo. Dès que nous allons organiser ça, comprendre qu'il faudrait organiser les agriculteurs, les coopératives, connaître. Pour moi, les agriculteurs, ce sont comme des militaires. Ce sont des qui assurent la souveraineté alimentaire. On doit les connaître. Ils sont en nombre de combien? Ils cultivent où? Quels sont les problèmes, les contraintes? Tout ça. Mais je crois que chacun a l'expérience. Ils sont presque abandonnés.
Et ça, c'est un problème. C'est pas la structuration de l'école de la filière agricole et aussi de développement de l'écosystème agro-industriel. Pourquoi? Parce qu'ici, nous devons voir toute la chaîne de valeur agricole, de la production jusqu'au consommateur final. Donc, il faut transformer. Et si on applique ça, les politiques agricoles ici vont venir et voilà, les Congo va démarrer ou décoller. Mais si on ne le fait pas, ça sera toujours difficile parce que nous aurons des interventions éparpillées. Et ça, là, ça ne fait pas avancer le secteur agricole.
Voilà, professeur, avant de revenir au standard, cette question, un commentaire par rapport au projet PNDS 145 territoire. Vous pensez également que ces genres de projets, c'est des projets vraiment qui peuvent également aider les secteurs agricoles à aller de l'avant?
Absolument. Je crois que nous tous, aujourd'hui, nous sommes d'accord que le projet PNDL 145 territoire est le plus grand projet d'investissement jamais réalisé en République démocratique du Congo. Et il y a ce volet du secteur agricole. Donc, si nous mettons, si nous organisons ce secteur-là très bien, avec une gouvernance agricole territorialisée et structurée, et j'ai mis le document. C'est ce qui est prévu. Et si nous mettons seulement ça en application, je crois que le Congo pourra décoller en ce qui concerne le secteur agricole. Le projet est très bien élaboré, mais j'avais maintenant, il faudrait la mise en application. Et qui commence par la structuration de ces filières agricoles, spécialisées pour chaque territoire. Et il ne faudrait pas que les territoires, faut qu'il y ait des spécialisations. Vous allez par exemple à Ouacha, ici, là-bas, ils vont faire les riz. De l'autre côté, les maïs, les maniocs, et ainsi de suite. Et en finance, on renforce les capacités et nous avons des chercheurs qui vont accompagner, surtout la recherche, qui vont accompagner pour permettre à ce qu'on puisse augmenter les rendements, les semences qui seront adaptées aux zones où nous allons cultiver, les analyses des sols qui doivent être menées avant que les semences ne soient posées au sol, tout cet ensemble-là, je crois. Le PDS 145 territoire, s'il est bien exécuté, sera vraiment utile pour nous, pour le développement du secteur agricole.
Professeur, on vous garde en ligne le temps pour nous d'accorder la parole à Onikar Banza, qui nous appelle depuis le Kassi également, Douni Arsène, qui est à Uji, au sud Kivu. Onikar Banza, vous êtes à l'Ikassi, on vous écoute.
Bonjour, merci beaucoup, M. Marcel. Bonjour, M. Marcel.
Vous avez la parole, allez-y.
Monsieur Marcel, merci beaucoup. Vous savez, par rapport à cette thématique, je crois que c'est plus important, mais je crois particulièrement que ce qui bloque beaucoup plus la machine, c'est la politique. La politique, parce que vous allez vous rendre compte que la plupart des programmes dans notre pays sont purement politisés, et par conséquent, on les fait dans un système politique. Et par conséquent, le fait que chez nous, il n'y a pas cette culture de continuité des affaires politiques, alors chaque fois qu'une personne est changée ou l'animateur de tel domaine est changé, c'est-à-dire son programme s'arrête là, alors que cela devrait être pérennisé et ça peut s'améliorer. Je vous donne l'exemple d'ici chez nous, dans les régimes passés au premier mandat, vous allez vous rendre compte qu'il y avait une condition qu'on donnait aux exploitants miniers ou les investisseurs miniers qui devraient avoir un champ pour produire le maïs. Mais au deuxième mandat, avec des tensions politiques, tout a disparu et c'est resté au zéro. Ce qui veut dire que, en tout cas, le fait de politiser, c'est ce qui est en train de bloquer beaucoup plus le problème. Moi, je crois que particulièrement, l'État doit avoir une politique agricole spéciale qu'il faut nécessairement respecter. Et je vous donne un autre cas. Ici, chez nous, encore pendant cette période, nous avons un programme que moi, j'ai salué ardemment et j'ai acclamé suffisamment. C'est un programme qu'on appelle « Grand Village Agricole ». Ce grand village agricole consistait à donner aux coopératives des engrais pour l'agriculture de maïs. Mais vous allez voir que dans son fonctionnement, c'est comme si c'est quelque chose qui est à donner à une catégorie de personnes et les autres non. Et ce qui veut faire croire qu'on n'a pas la possibilité de développer dans tous les sens. J'avais proposé à l'époque que j'avais dit, nécessairement, ces grands villages agricoles, c'est un grand projet, c'est un très bon projet. Si on pouvait l'élargir, par exemple, dans le domaine de l'enseignement, je m'explique, on cible des écoles et les écoles soient fournies en engrais et que ces enseignants cultivent. Et si les enseignants cultivaient la production des enseignants, ils pourront retourner quelque chose au gouvernement. Donc, le gouvernement gagne et cette catégorie des personnes qu'on appelle enseignants gagne aussi. J'ai vu aussi qu'il y avait le maire de la ville ici à Likasi qui a tenté de faire le prolongement. Malheureusement, les moyens ont manqué à notre mairie parce que le maire de la ville a appelé les enseignants. Il a demandé à ce que ces enseignants se réunissent en coopérative et que le maire de la ville pouvait mettre à la disposition des enseignants un tracteur qui pouvait cultiver. Mais le grand problème qui va se poser, on peut cultiver pour les enseignants, mais les engrais viendront d'où? Et si, par exemple, le gouvernement pouvait permettre ou faciliter la tâche à notre maire de la ville, la solution. Mais le mal qui ronge, c'est que on veut tout politiser.
Voilà, merci,
on veut tout
Onicar.
Faire au rythme de la politique.
Voilà,
c'est
merci,
ce qui est en
merci,
train de bloquer.
Merci Onicar Banza, depuis Likasi, dont vous êtes catégorique. On doit arrêter de politiser les programmes liés au secteur agricole. Merci d'avoir appelé depuis Likasi. Dounier Sen Mouigiroua, vous êtes à Idjou, dans le sud Kivu. Vous avez la parole.
Bonjour, Dounier Mouigiroua depuis Idjou. Je félicite beaucoup l'équipe de la radio Capi avec la thématique à laquelle j'ai eu l'honneur d'être invité. Bien sûr, le Congo est un grand pays où on a oublié l'aspect le plus important. Et cet aspect, c'est l'agriculture. Si nous nous bornons à ces études selon les FAO, on ne peut jamais prétendre développer un pays ou un pays qui ne produit pas sa nourriture pour sa population. Bien sûr, les physiocrates estiment que toute richesse, c'est d'abord la terre. Les ressources minières, les eaux, les forêts peuvent venir en second lieu, mais ils ne constituent pas l'essentiel de la production agricole. Si cela s'avère essentiel, vous devez estimer à la question que la radio Capi avait posée encore en 2014, quelles seront les conditions de vie d'une population que vous les estimez à 200 millions d'habitants en 2050? C'est une question qui avait resté beaucoup d'encre dans le salive, où on peut supposer que c'est le leadership congolais qui met la culture aléatoire à sa place, qui devait être une agriculture qui devait nourrir presque la moitié de l'Afrique et tous les Congolais. Je sais que c'est pas une histoire. Ici, vous avez oublié à valoriser le travail agricole. Il faut mécaniser l'agriculture, cesser d'élaborer avec la roue, protéger les sols contre les érosions fertiles, les sols avec des engrais organiques ou chimiques. Chose oubliée au Congo ici chez nous. Là où je suis au village, pire village territoire d'Ivu, où maintenant nous n'attendons rien dans nos terres, nous n'allons rien produire. Il y a eu le soleil qui est venu en grande quantité à tabasser les plantes. Et donc ici, on n'attend absolument rien. Et nous avons pensé, est-ce qu'il faut-il mécaniser l'agriculture et cesser d'élaborer avec la roue? Non, ça ne peut pas passer en ça. Alors, nous devons entendre ailleurs, dans des pays développés, ce qu'on va appeler Service national des semences améliorées. Ça n'existe pas ici chez nous au Congo. Nous, on n'entend pas ça. Depuis que nous sommes là, c'est l'État qui doit demander chaque région, la culture adaptée à leur sol. C'est ce que nous avons réussi, un candidat en 2018 dans sa campagne, en 2023, qui nous avait promis de nous envoyer ses ingénieurs agronomes pour l'étude des sols, des fertilités de ces sols d'ici chez nous, à Yves, mais qui est resté une lettre morte. Je me rappelle quand l'ancien ministre de Cantutin a été au pouvoir, il aurait envoyé 100 tracteurs additionnels cultivateurs de la province du Sud-Kivu. Où sont partis ces tracteurs? Ils ne sont pas dans les champs, plutôt ailleurs. Vous allez écouter cette question avec intérêt. Sinon, si on peut valoriser ces pays, c'est l'État qui doit prendre en charge. Et quand il est le secteur de la culture, et oublier combien d'ingénieurs, d'agronomes que nos universités forment chaque année? Combien de nos écoles techniques agronomiques qui organisent ces filières, mais qui n'arrivent pas à trouver même guère des causes après leur fin des études? Et ça, ce sont des questions qui méritent d'occupation.
Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci.
Et je vous en prie.
Merci beaucoup, Douni Arsène, Dipidji, dans le sud qui va. Némi Moui. Ah, vous êtes à Boutembo, vous avez la parole.
Ok, merci vraiment pour l'émission.
Némi, il y a soucis avec votre ligne téléphonique. Hein. Essayez de vous déplacer peut-être au niveau de la régie. On pourra vous relancer. Alors, on va à Rutshuru pour écouter Claude Mougui. Claude Mougui, vous êtes en ligne?
Oui, bonjour ma radio.
On vous écoute. Votre radio vous accorde la parole. Allez-y.
Ok, je suis actuellement dans le camp de réfugiés. Je suis allé visiter mes parents et les amis. J'ai vécu une expérience qui n'est pas un peu meilleure par rapport à tout mon pays.
Et Claude, on vous attend pas très très bien, décidément. Il y a vraiment des soucis pour la ligne téléphonique ce matin. Alors je reviens à mon invité, professeur Jean-Robert Ndanza-Bombiti. Vous êtes toujours là?
Oui, je suis toujours là.
Voilà, professeur, vous avez suivi, il y a les deux derniers intervenants. Il y a Ornicar Banza, lui il a insisté sur la question de politisation des programmes agricoles, ce qui peut constituer également un frein à ces secteurs. Et puis vous avez également suivi Denis Arsène qui dénonce seulement le fait que par exemple dans cette partie du pays où il vit, c'est-à-dire à l'île d'Idjui, dans le sud Kivu, il n'y a pas vraiment un suivi par rapport aux programmes agricoles. Un commentaire là-dessus pour ce Jean-Robert.
Okay. Bien que je n'ai pas pu suivre, mais déjà les résumés que vous donnez, je suis tout à fait d'accord avec les auditeurs. Mais le secteur agricole doit être un secteur qui nous aide pour attirer notre souveraineté alimentaire. Donc, on ne peut pas blaguer avec ça. Donc, les programmes qui ont été réalisés, c'est vrai, quand vous attendez les auditeurs, quand vous échangez avec la population, tout le monde veut voir ce secteur avancer. Mais ici, c'est une opportunité pour nous de voir quelles sont les contraintes et les solutions sont là, devant nous. Il suffit simplement que nous puissions mettre au travail et le problème sera résolu. Il y a par exemple le problème qui se pose aujourd'hui de la traçabilité agricole et de la conformité environnementale où nous serons exclus du système des lignes européennes pour l'exportation des produits agricoles. Et tout ça trouve leur base dans une mauvaise structuration de cette filière-là. Et sinon, ce problème-là ne se poserait pas. Donc le problème est vraiment profond et il faudrait rapidement nous mettre ensemble. Les compétences, on en trouve ici en République démocratique du Congo. Il faut simplement qu'il y ait une gouvernance bien structurée qui va nous réunir ensemble. Et voilà, les solutions seront trouvées.
Mais professeur, si aujourd'hui, on vous demandait c'est quoi la réforme prioritaire qu'il faut apporter dans les secteurs agricoles, vous parlez de la restructuration, des structurations des filières. Vous avez également évoqué de voir dans quelle mesure développer l'écosystème agro-industriel. Mais quelle pourrait être la priorité?
Je crois que les politiques, tout ça, on a eu. Donc, nous avons presque tout, mais je crois qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une telle réforme. Ça sera pour moi la structuration des filières agricoles. Parce que ça, c'est la moindre des choses. Ça veut dire que, qu'on puisse enregistrer les agriculteurs, territoire par territoire, et on le met dans des filières. J'ai salué le leadership du président de la République avec la nomination dernièrement, je crois, de 2500 magistrats. Je crois que ce qui pourrait suivre, c'est la nomination, par exemple, pour l'engagement de 2000 ou 1500 agronomes. Imaginez si nous envoyons 10 agronomes dans chaque territoire. et ils sont très bien formés. Il y aura un changement, c'est-à-dire que ces agronomes vont là-bas pour aider. Je crois que nous devons arrêter un peu avec les grandes politiques, tout ça. Rentrons, la base, c'est structurer la filière agricole. C'est connaître qui est agriculteur, il travaille où, géolocaliser sa parcelle, quels sont ses besoins, et on consolide ça. Maintenant, lorsqu'on va venir distribuer les semences, on sait à qui émettre les semences. On aide les agriculteurs à analyser les sols pour savoir les problèmes. On amène les pesticides là où on en a besoin et tout ça. Et je crois qu'il y a déjà des programmes ici d'aménagement, de réhabilitation des infrastructures routières et ainsi de suite. Mais la structuration, pour moi, c'est la base. Et la structuration sera suivie par la création d'un écosystème agro-industriel.
Vous parlez de la, vous parlez de l'identification, l'enregistrement des agriculteurs. Je sais en tout cas, à moins que ma mémoire me trahisse, lorsqu'on avait reçu un membre de l'équipe de l'actuel ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, Grégoire Mouchaï, c'était parmi des réformes qui ont été vraiment initiées. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui pour ce qui est de l'identification des agriculteurs territoire par territoire, parce que c'était question de savoir qui est agriculteur dans ce pays, comment mieux les encadrer. Professeur, permettez que je prenne le tout dernier auditeur Némi Mouira, qui nous appelle depuis Boutembo, et ensuite on reviendra à vous pour conclure. Némi Mouira, vous nous appelez depuis Boutembo, vous avez la parole.
Merci de m'avoir accordé une parole. Moi, c'est Némi Mouira depuis Boutembo.
Oui.
Je voudrais interpeller notre gouvernement de sensibiliser la population, comme dans notre territoire de Beni et Boutembo, là que la population, moins à 95%, vit de l'agriculture. Et cette population de Beni et Lubero, ils se soucient de leur agriculture. D'ailleurs, je voudrais aller plus loin pour dire que si d'autres territoires pourraient imiter et Lubero, Beni, mais le pays serait déjà développé. Imaginez qu'il y a des produits agricoles qui sont en train de se pourrir dans des territoires, alors que dans d'autres territoires, la population en a besoin. Alors, si le gouvernement pouvait sensibiliser la population dans des territoires et le faire comprendre que pour vivre, il faut être agriculteur. Mais ça voudrait aider. Imaginez ici chez nous, à Beni, Lubero, nous sommes capables de produire des cacao, des cafés, même s'il y a des marchés qui ne sont pas bien élaborés, les marchés qui ne sont pas... Il y a des aliments qui manquent même, qui peut acheter. Nous avons des pommes de terre qui manquent même les clients. Alors, dans d'autres territoires, peut-être qu'il fallait améliorer le secteur de relations entre territoires et entre villes pour savoir comment évacuer les produits déjà cultivés. Alors,
voilà, merci.
Si la population...
Ouais. Ben merci Némi Mouira, c'est un de défis hein, dans ce secteur agricole, on n'arrête pas d'en parler, l'évacuation de produits, voilà pourquoi même le programme du développement local de 145 territoires vise dans sa deuxième partie la réhabilitation, la construction des routes et des sites agricoles. Il y a beaucoup de produits qui pourrissent à l'intérieur de nos provinces. Merci Némi Mouira d'avoir appelé depuis Boutembo. On va revenir à notre invité pour conclure. Pour ça, vous avez une minute pour conclure. Donc vous insistez, il faut absolument la structuration de filières agricoles. Ça peut constituer une solution pour un décollage du secteur agricole en RDC. Professeur Jean-Robert Nzanza Mombiti, vous avez la parole pour conclure.
Ah, absolument. La République démocratique du Congo, son avenir se construira dans nos champs, nos terres fertiles et la capacité de notre jeunesse à nourrir, et transformer et apporter ce que nous allons produire. Et pour cela, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait structurer les filières, bâtir des écosystèmes agro-industriels, investir dans la recherche, financer l'innovation et professionnaliser la gouvernance agricole. Je crois que nous commençons par ça. des choses, les lignes vont bouger. Alors moi, je rêve, comme beaucoup de nos compatriotes, d'un Congo, des territoires qui sont des pôles de production et de transformation agricole, et où les jeunes deviennent des vrais agri-entrepreneurs, et où nos produits portent fièrement la mention origine, au RDC, qualité, export, des histoires comme ça, made in Congo. Quoi, ça, c'est les rêves que tout Congolais est en train d'espérer.
Voilà, manger des produits made in Congo, c'est le rêve du tout Congolais. C'est avec ce mot du professeur Jean-Robert Ndanza Mopiti que nous allons mettre fin à ce numéro de pause auditeur. Professeur Jean-Robert Ndanza Mopiti, je rappelle que vous êtes expert en agriculture intelligente et durabilité. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup et je remercie tous nos auditeurs.
Et voilà, fin de ce numéro de Paroles aux auditeurs de 6 jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Patrick Kiasongwa qui est à la mise en onde, à Lise Kavira qui l'a réalisé et coordonné, à Paul Badianama pour l'équipe multimédia au micro. C'était Marcel Ngomba Lopez. De vous retrouver dans un prochain numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.